Vous écoutez France Culture.
Bonsoir Jean Lebrun, bonsoir à tous. Suite et quatrième temps ce jeudi d'une semaine sur le stoïcisme dans les nouveaux chemins de la connaissance. On ne peut pas faire de la philosophie une pratique tout en écrivant des livres pour le dire. Si la philosophie est une manière d'être avant d'être un discours sur l'être, alors le philosophe est un homme de parole plus qu'un homme de thèse. Mieux vaut être un bon vivant que le pur théoricien de la vie bonne. De fait, Épictète le stoïcien n'est, pas plus que Socrate ou Confucius, l'auteur des textes qui lui sont attribués, mais c'est son disciple Arien qui rassembla ses paroles dans un recueil qualifié à dessein de manuel, autrement dit ce qu'on a sous la main comme un poignard. Après Emmanuel Naya, venu vous parler de Sénèque, après Frédéric Ildefonse, venu vous parler d'ancien stoïcisme, puis Jean-François Balaudet, venu vous parler de la différence entre stoïcisme et épicurisme, c'est aujourd'hui Thomas Benatwyl qui enseigne à Nancy et à qui l'on doit un essai intitulé « Faire usage, la pratique du stoïcisme » paru chez Vrin. Thomas Benatwyl donc, qui est notre invité. Un grand bonjour Thomas Benatwyl.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue sur France Culture, bienvenue au nouveau chemin de la connaissance.
Merci.
C'est d'Épictète l'esclave que nous allons parler aujourd'hui, puis peut-être de Marc Aurèle l'empereur, qui en un sens d'ailleurs était son disciple. Première remarque d'ailleurs, c'est quand même très étonnant, le stoïcisme, cette philosophie qui peut être brandie autant par un esclave que par un empereur, et mieux d'ailleurs, par un empereur qui en un sens était le disciple de l'esclave.
Oui, c'est vrai qu'au début de ses pensées, Marc Aurèle remercie un de ses maîtres de philosophie de lui avoir fait lire les textes d'Épictète. Donc, comme vous l'avez rappelé, il ne s'agit pas de textes écrits par Épictète lui-même, mais il s'agit sans doute des entretiens que Arien a mis par écrit et qui était le contenu des cours que donnait Épictète et auxquels Arien avait assisté. Et donc l'empereur se retrouve le disciple de l'esclave. C'est sans doute quelque chose qui est arrivé plusieurs fois dans l'Antiquité, qui n'est pas si originel que ça. Mais dans le cas du stoïcisme, ce n'est pas un hasard, parce que le stoïcisme est vraiment la philosophie qui, dès sa naissance, vers 300 avant Jésus-Christ, a prétendu qu'on pouvait philosopher dans toutes les positions sociales. Et contrairement, par exemple, à Platon, dont on se souvient qu'il associait assez étroitement l'acquisition de la philosophie avec certaines hiérarchies sociales, eh bien, les stoïciens, au contraire, insistaient sur l'indépendance des deux aspects et on raconte souvent l'histoire de Cléante, le second maître du stoïcisme, qui portait de l'eau la nuit pour pouvoir gagner de l'argent et le jour pouvoir suivre les leçons de Zénon. Et donc, on a un peu le même modèle avec Épictète et Marc Aurèle.
Cléante et Zénon, c'est l'ancien stoïcisme. On en a parlé avec Frédéric Ildefonse, hein, absolument. Donc, même modèle avec Épictète et Marc Aurèle. Est-ce que derrière cette idée que finalement tout le monde peut pratiquer le stoïcisme, il n'y a pas à l'œuvre une conception de la liberté qui, en son fond, ne repose pas sur l'étendue de mon champ d'action. En somme, ma liberté n'est pas fonction de ce que je suis en mesure de faire, mais plus exactement de la maîtrise, finalement, que j'exerce sur moi-même et sur l'aptitude que j'aurai à ne pas m'occuper de ce qui ne dépend pas de moi.
Oui, on peut le dire comme ça. Bon, c'est évidemment la fameuse distinction qui ouvre le manuel d'Épictète entre ceux qui dépendent de moi et ceux qui ne dépendent pas de moi. Et la surprise qui attend tous les lecteurs de cette première page, c'est qu'évidemment, le contenu de ce qui dépend de moi et ce qui ne dépend pas de moi est très surprenant. Puisque selon Épictète, la seule chose qui dépend vraiment de moi, ce sont mes représentations, mes jugements, mes impulsions, mes désirs. Et tout le reste, y compris mon corps, mes possessions, mes proches, ne dépendent pas de moi.
Ne dépendent pas de moi, il dit ceci, hein, parmi les choses qui existent, certaines dépendent de nous, d'autres non. De nous dépendent la pensée, l'impulsion, le désir, l'aversion, bref. Tout ce en quoi c'est nous qui agissons ne dépendent pas de nous, le corps, l'argent, la réputation, les charges publiques. Tout ce en quoi ce n'est pas nous qui agissons. En somme, la liberté commence quand je restreins mon champ d'activité à aux circonstances de la vie et au lieu de l'existence où je suis actif, finalement.
Oui, alors il faut faire attention avec cette distinction parce que si on la lit de manière trop littérale, évidemment, ça paraît complètement absurde de dire que mon corps ne dépend pas de moi, je me lève, je m'assois, je lève le bras, tout cela dépend de moi. Ce que veut dire Épictète, c'est qu'il a une définition extrêmement restrictive de ce qui dépend de moi et de ce qui ne dépend pas de moi. Ce qui dépend de moi, ça veut dire ce qui dépend toujours de moi ou ce qui dépend par nature de moi, c'est-à-dire ce qui ne peut jamais être empêché. Et effectivement, s'asseoir ou se coucher, lever son bras, ça, il y a des circonstances dans lesquelles ça ne dépend pas de vous. Hein, si vous me retenez le bras, je ne pourrais pas le lever. Et si je suis gravement malade, je ne pourrais pas sortir du lit.
Donc c'est en cela que le corps m'échappe.
Oui, le corps m'échappe pour Épictète et tout ce qui ne dépend pas de moi nous échappe parce que il existe des circonstances dans lesquelles ces choses ne dépendent plus de nous. Alors, évidemment, la question, c'est pourquoi avoir une définition aussi restrictive, hein? Mais la réponse est simple, c'est parce qu'on vise le bonheur. Et on veut, Épictète le dit dans le manuel, on veut gagner à tous les coups. Donc, la seule solution pour atteindre le bonheur à tous les coups, c'est de restreindre nos objectifs à un domaine dans lequel on est sûr de pouvoir atteindre les objectifs. Hein. Si on se donne des objectifs dans lesquels on peut, même de manière occasionnelle, être empêché, eh bien, dit Épictète, on sera forcément entravé un jour ou l'autre.
Donc, ce qui veut dire qu'on retrouve une définition de la liberté. Si la liberté, c'est « je fais ce que je veux », alors, évidemment, cette conception de la liberté m'expose à tout ce que la nature m'empêche de faire, à tout ce que la vie, les circonstances de l'existence, les lois, par exemple, m'empêchent de faire. Si, en revanche, la liberté est davantage, et là, on se rapproche des stoïciens, de vouloir ce qu'on fait, je suis libre à tout instant, puisque ma liberté ne dépend que d'une chose, c'est de mon rapport à ma propre action.
Oui, voilà, c'est ça. Il faut noter d'ailleurs au passage que le fait de mettre la liberté comme l'un des grands objectifs de la philosophie est quelque chose qui est assez original dans l'Antiquité. Hein. La plupart du temps, les philosophes donnent comme fin dernière de l'éthique le bonheur, le fait de conquérir le bien, la sérénité, l'ataraxie. Hein. Ce sont des éléments que reprend Épictète, mais Épictète insiste aussi très souvent sur le fait que nous voulons être libres. Ça peut être quelque chose qui est dû à la forte influence du cynisme sur Épictète, parce qu'on sait que dans le cynisme, hein, Diogène le cynique, il y a une grande importance de la liberté, hein, le fait de ne pas être entravé par les lois, par les coutumes, de vivre
de ne pas vie, être impressionné par les puissants.
Voilà, de vivre une vie à sa guise, en quelque sorte, et qui se donne ses propres règles, y compris quand ce sont des règles scandaleuses par rapport aux règles communes. Et chez Épictète, je pense que c'est une de ses grandes originalités, hein, dans la philosophie antique. Il répète sans cesse, nous voulons être libres, comme si vraiment la liberté était une valeur en soi, une sorte d'équivalent du bonheur, ce qui n'est pas si évident chez les autres moralistes de l'Antiquité.
Ce qui dépend de nous est libre naturellement, ne connaît ni obstacle ni entrave. Ce qui n'en dépend pas est faible, esclave, exposé aux obstacles et nous est étranger. Donc, rappelle-toi que si tu tiens pour libre ce qui est naturellement esclave et pour un bien propre ce qui t'est étranger, tu vivras contrarié, chagriné, tourmenté, tu en voudras aux hommes comme aux dieux. Mais si tu ne juges tiens que ce qu'il est vraiment et tout le reste étranger, jamais personne ne saura te contraindre ni te barrer la route, tu ne t'en prendras à personne, n'accuseras personne, ne feras jamais rien contre ton gré, personne ne pourra te faire de mal et tu n'auras pas d'ennemis puisqu'on ne t'obligera jamais à rien qui pour toi soit mauvais. Thomas Benatouil est l'invité des Nouveaux Chemins de la Connaissance, une semaine que les Nouveaux Chemins de la Connaissance consacrent aux stoïciens. Les stoïciens, Thomas Benatouil d'ailleurs, qui sont de ces philosophes dont on peut dire, puisque c'est la mode aujourd'hui, et pour le coup peut-être qu'on peut le dire à bon droit, les stoïciens sont de ces philosophes qui ont l'ambition de faire en sorte que la philosophie permette de mieux vivre sa vie, n'est-ce pas ? Alors on dit ça aujourd'hui, oui, comment mieux vivre grâce à la philosophie ? En ce qui me concerne, je ne suis pas convaincu que la philosophie aide à mieux vivre, sauf peut-être en ce qui concerne le stoïcisme, pour ce qui est du stoïcisme, qui a effectivement une efficacité pratique quasi immédiate, hein, et c'est sa vocation.
Oui, c'est vrai que l'idée de la philosophie comme manière de vivre qui a été défendue et... détaillé par Pierre Hadot vaut en particulier pour le stoïcisme impérial. Épictète et Marc Aurèle sont d'ailleurs parmi les auteurs sur lesquels Pierre Hadot a le plus travaillé. Et c'est vrai que ce sont des auteurs stoïciens qui se concentrent sur l'application de la philosophie à leur vie. Hein, ou à la vie de leurs disciples, dans le cas d'Épictète. Et donc là, il y a vraiment une ambition pratique. Je ne sais pas s'il y a une efficacité, ça c'est à chacun de le juger, mais il y a vraiment une ambition pratique de la philosophie qui atteint sans doute son sommet dans l'Antiquité, peut-être dans toute l'histoire de la philosophie, parce que la philosophie, chez Épictète et chez Marc Aurèle, devient entièrement une pratique, une espèce d'exercice quotidien où il s'agit sans cesse de s'imprégner de représentations, comme dit Épictète, comme dit Marc Aurèle, puisque nos représentations nous font agir, si on arrive à s'imprégner des bonnes représentations, des représentations vraies de la réalité, on agira bien. Et donc tout le travail de la philosophie, c'est d'imprégner notre âme quotidiennement de ces représentations.
Quand vous dites s'imprégner de représentations, le mot important ici, c'est s'imprégner. On sent bien d'ailleurs pourquoi Pierre Hadot est tellement sensible au stoïcisme, puisque le stoïcisme renvoie à la philosophie comme un exercice, comme une pratique, presque comme une méditation, comme quelque chose sur quoi il faut revenir, dont il faut donc s'imprégner, de sorte que la condition même de l'efficacité, c'est une incorporation des conseils qui sont prodigués dans le manuel, par exemple. Il s'agit de faire en sorte que est-ce qu'on peut parler d'un intellectualisme stoïcien qui consisterait à formuler une série de conseils qu'il faudrait ensuite appliquer, quoi qu'il en coûte, à l'existence, ou au contraire d'une forme de méditation justement stoïcienne qui consisterait à mettre en œuvre lentement, patiemment, ce qui au départ ressemble à un précepte?
Alors justement, le principe même du stoïcisme, on pourrait résumer comme ça, c'est qu'il n'y a pas d'opposition entre l'intellectualisme et la méditation, pour reprendre vos termes. C'est-à-dire que le stoïcisme est sans doute la philosophie la plus intellectualiste de l'Antiquité, voire de l'histoire. C'est ce que
qu'avec la pensée, on peut régler
exactement
la vie.
Exactement. C'est-à-dire que, comme dit Épictète, ce ne sont pas les choses qui te troublent, ce sont tes représentations des choses. Donc si tu changes tes représentations, tu ne seras plus troublé. Donc le principe, c'est de transformer nos jugements, de transformer nos représentations, et la théorie stoïcienne de l'âme, du fonctionnement du corps en lien avec l'âme, explique que la transformation des représentations transformera automatiquement nos désirs et donc nos actions. Donc de ce point de vue-là, c'est un intellectualisme qui durcit encore l'intellectualisme qu'on trouve chez Socrate, dans le Protagoras, dans le Gorgias de Platon.
C'est-à-dire en fait, ou encore dans l'idée que nul n'est méchant volontairement, que la méchanceté, c'est l'effet de notre ignorance et qu'en somme, il suffit du savoir pour dissiper le malin.
Exactement. Les stoïciens reprennent ce principe et le radicalisent même, parce que chez Socrate et chez Platon, on sent que ce principe, à certaines exceptions, n'est pas fermement établi. Chez les stoïciens, il est fermement établi.
Donc, si les stoïciens, pardonnez-moi juste un point quand même, si les stoïciens peuvent radicaliser ce principe, est-ce que ça ne tient pas justement au fait qu'il n'y a pas d'élection sociologique, finalement, de la pratique de la philosophie? C'est-à-dire que contrairement à Platon, la philosophie est à la portée de tout le monde, de sorte qu'on peut radicaliser cette position et non pas en faire le privilège, en somme, de ceux qui sont bien nés.
Oui, alors, bon, après, toute la question, évidemment, c'est de savoir quel type de représentations vont nous permettre d'accéder au bonheur ou à la bonne, aux bonnes actions. Hein. Et alors là, il y a une impression à dissiper, hein, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, on dépasse l'opposition entre intellectualisme et méditation. Il y a toute une théorie, tout un système, et les stoïciens sont même les inventeurs de la notion philosophique de système. Ce sont eux les premiers qui ont dit que la philosophie était un système. Il y a tout un système à maîtriser, à apprendre et ensuite à maîtriser pour être heureux. Quand on dit qu'en changeant nos représentations, on va pouvoir bien agir, ça ne se fait pas en un claquement de doigts pour deux raisons. D'une part, parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a toute une méditation, un travail d'incorporation, d'imprégnation. Épictète fait souvent la comparaison avec la digestion. Il dit à ses élèves, tu me recraches des choses comme si tu ne les avais même pas mâchées. Hein, celui qui, par exemple, récite la philosophie en disant la vertu est le seul bien, le vice est le seul mal.
Ce qui est celui qui récite son Aristote.
Voilà, là, en l'occurrence, c'était du Chrysippe, mais celui qui récite ses principes stoïciens, celui-là, c'est comme si s'il crachait des choses qu'il n'a même pas mâchées, qu'il n'a même pas digérées. Il y a tout un travail de digestion. Et je rappelle au passage, Frédéric Ildefonse en a peut-être parlé mardi, que les stoïciens pensent que l'âme n'est pas quelque chose d'immatériel. Donc, quand les stoïciens font des comparaisons entre l'âme et le corps, ce sont des analogies, mais enfin des analogies qui ont plus, qui sont en quelque sorte plus qu'une analogie, puisque l'âme, d'une certaine manière, elle digère un peu comme le corps. Et quand on dit qu'elle s'imprègne de même, hein, c'est qu'il y a, il y a une espèce d'imprégnation matérielle de l'âme par les idées, les représentations étant aussi des choses matérielles.
De sorte que Descartes n'est pas seulement stoïcien quand il veut changer ses désirs plutôt que l'ordre du monde, mais également quand il pense à un lieu étrange, la glande pinéale, où l'âme et le corps finiraient par s'entendre. Il faut quand même comprendre cette singularité très profonde du stoïcisme, puisque à la fois il radicalise l'intellectualisme, dont on pourrait se dire, ben voilà, c'est une façon de régler le corps par l'esprit, donc de les opposer, de déclencher une sorte de guerre civile à l'intérieur d'un individu où l'esprit doit l'emporter. Et en même temps, cette radicalisation de l'intellectualisme n'est rendue possible que par une conception quasi, vous l'avez dit, corporelle ou digestive de l'âme. En sorte, s'ils peuvent radicaliser l'intellectualisme, c'est aussi parce qu'il n'y a plus de différence entre l'âme et le corps.
Oui, alors bon, il faut... effectivement, c'est vrai que la grande originalité du stoïcisme, c'est ça. C'est-à-dire qu'au lieu de penser l'accomplissement philosophique le plus radical comme quelque chose qui implique une sorte de fuite hors de la nature ou de rupture avec le corps, de transcendance par rapport à la matière, les stoïciens pensent l'accomplissement philosophique radical, la construction du système le plus parfait, le plus rigoureux et le plus cohérent dans un contexte qu'on pourrait dire matérialiste, même si le terme techniquement n'est pas exact, qu'on pourrait dire corporaliste. Alors, si on veut être précis à ce sujet, les stoïciens ne pensent pas que l'âme ne se distingue pas du corps. Ils pensent que l'âme est un corps d'un autre type que le corps. Hein. L'âme est un corps, on peut dire, léger, un corps plus fin hein, que le corps. Donc, c'est le même type de matière, c'est le même type, ce n'est pas de choses qui appartiennent à des ordres ontologiques différents, mais ce sont bien deux choses différentes. Hein. Et donc l'âme est dans le corps, mais elle obéit à des lois qui sont similaires à celles du corps, puisqu'elle est aussi un type de corps. Évidemment, elle a des propriétés un peu différentes.
Souviens-toi que ce qui te cause du tort, dit Épictète, ce n'est pas qu'on t'insulte ou qu'on te frappe, mais l'opinion que tu as qu'on te fait du tort. Donc, si quelqu'un t'a mis en colère, sache que c'est ton propre jugement le responsable de ta colère. Essaye de ne pas céder à la violence de l'imagination, car une fois que tu auras examiné la chose, tu seras plus facilement maître de toi. Là encore, hein, tout à l'heure vous avez parlé d'imprégnation. Ici, c'est essaye de ne pas céder à la violence de l'imagination. On peut se dire donc que cette âme corporelle, et donc ce corps spirituel, ce mélange finalement d'âme et de corps qui constitue le fond ontologique du stoïcisme, ou anthropologique du stoïcisme, conduit à une ambition qui est de s'y reprendre à plusieurs fois pour parvenir à l'ataraxie ou à l'absence de douleur.
Oui, alors dans le passage que vous venez de lire, effectivement, il y a un essai parce que Épictète prend l'exemple de quelqu'un qui est confronté à une offense et il sait bien que ce n'est pas facile dans ces cas-là de se maîtriser. Hein. Il y a des réactions spontanées, de l'âme qui sont de type passionnel. Alors, la passion ne naît véritablement que si on laisse libre cours à cette réaction spontanée et qu'on se laisse emporter hein, par la représentation qui est au fond de notre âme et qui, on pourrait dire, code l'événement qui nous arrive d'une manière erronée et nous emporte dans une réaction tout aussi erronée. En l'occurrence, là, l'offense est un mal. Ça, c'est une erreur pour le stoïcisme. Et là, pour le comprendre, c'est le point qu'on n'a pas mentionné jusqu'ici. Pour le comprendre, là, il faut faire intervenir tout le système stoïcien. Il faut faire intervenir les principes de la morale stoïcienne. Il faut faire intervenir les principes de la logique stoïcienne, il faut faire intervenir les principes de la physique stoïcienne. Tous ces principes...
Et une fois qu'on a fait intervenir tous ces principes, qu'on les a corporéisés et qu'on se les ait appropriés, on peut ne pas insulter le type qui emboutit votre voiture.
Oui, à ce moment-là, on n'a plus besoin d'essayer de ne pas réagir, puisque là, comme on s'est entièrement imprégné des principes, en quelque sorte, on voit la vie à travers ces principes et on n'a même plus besoin d'essayer de ne pas mal réagir, puisque en fait, immédiatement, on ne réagit pas mal, puisqu'on voit voit les choses à travers les bonnes représentations.
En somme, il devrait y avoir un examen sur le manuel d'Épictète au moment de passer le permis de conduire. justement, Épictète, ce qui est intéressant également avec les stoïciens, c'est qu'on l'a vu, hein, Épictète et Marc Aurèle, l'esclave et l'empereur pratiquent la même philosophie. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment les stoïciens, par le bel exemple de leur vie, conduisent et nous invitent précisément à faire comme eux, sans que ce soit coercitif d'ailleurs. Alors Épictète était l'esclave, hein, on l'a dit, de Épaphrodite, un affranchi de Néron, dont la tradition a fait un maître tout à fait cruel, et si cruel d'ailleurs qu'il lui aurait cassé la jambe, d'où le surnom d'Épictète le boiteux. Et alors l'histoire raconte que quand la jambe d'Épictète était coincée dans une machine infernale, Épictète s'est contenté de dire, son maître lui a dit, bah alors voilà, qui est donc le maître? Épictète lui dit, écoute, qu'est-ce qui va se passer? Le maître Épictète lui dit, mais ce qui va se passer, c'est que si tu tournes encore la machine, eh bien ma jambe va se briser, tout simplement, comme exemple de maîtrise, façon de ne pas être soumis à la douleur, Thomas Benatouille.
Oui, ce qui est intéressant avec cet exemple, hein, on dit qu'effectivement, le maître d'Épictète le battait, ou en tout cas lui faisait souffrir à la jambe, et Épictète aurait dit, attention, tu vas la casser. Hein. Et quand la jambe s'est finalement cassée, Épictète aurait dit, tu vois, je t'avais prévenu, elle est cassée. Alors, ce qui est très intéressant dans cet exemple, qu'il soit vrai ou faux, c'est que là, on voit justement l'union entre l'éthique, la physique et la logique qui est caractéristique du stoïcisme. Parce que vous voyez, que dit finalement, à quoi se résume l'attitude, l'état d'esprit d'Épictète au moment où il lui arrive cette chose? Il voit les consécutions physiques, naturelles. Hein. Il dit, si tu fais ça, ça, tu vas me la casser. Hein. Et dans une sorte de vue extérieure à ce qui lui arrive, hein, parce qu'il se maîtrise suffisamment, suppose-t-on, pour ne pas hurler de douleur, il prévient son bourreau.
Mais la façon qu'il a de ne pas hurler de douleur, ça n'est pas de s'abstraire de sa douleur, c'est de s'incorporer finalement complètement à tout ce qui se passe. C'est de se vivre lui-même comme un rapport causal précédé par un geste et avec des conséquences. En somme, la façon qu'il a de ne pas souffrir, ça n'est pas d'avoir la tête ailleurs et le corps ici, c'est de comprendre de la tête et du cœur et du corps tout ce qui est en train d'arriver.
Effectivement. Hein, y a ce terme qui est très important chez Épictète qui s'appelle la compréhension, parakoloutésis, et qui est un terme qui, on peut traduire aussi par conscience, mais enfin, c'est un terme qui est bâti sur l'idée sur le verbe akoloutein qui veut dire suivre, qui veut dire découler d'eux. Hein, et donc, il y a bien cette idée, l'idée fondamentale du stoïcisme, c'est de comprendre, au sens de comprendre les conséquences, de suivre les conséquences. Et très souvent, ça se voit dans un passage que vous avez lu précédemment, très souvent, tout ce que dit Épictète, c'est regarde les conséquences de ce que tu fais. Hein, si tu désires ou tu crains des choses qui ne dépendent pas de toi, la conséquence logique, ce n'est jamais formulé sous comme des prescriptions morales. La conséquence logique, c'est simplement que tu seras un jour entravé, puisque tu t'attaches, tu cherches à obtenir des choses qui ne dépendent pas de toi. Il y a forcément un moment où tu n'auras pas la chose. Et donc, le fait de conseiller de ne s'attacher qu'à ce qui dépend de moi, hein, là encore, c'est un problème de logique. Ce n'est pas tellement un problème de morale au sens traditionnel du terme.
On pointe là encore d'ailleurs une autre singularité du stoïcisme, puisque finalement, le simple calcul des conséquences devrait nous mettre dans l'éthique de responsabilité. C'est-à-dire finalement dans une forme de pragmatisme qui voudrait qu'en vertu des conséquences, on modifiât nos principes. Or, chez les stoïciens, le calcul des conséquences, ce pragmatisme qui est le leur, finalement, cette façon qu'ils ont de devancer les conséquences de leurs actes, s'accompagne et se précède d'une intransigeance absolue sur les principes qui sont les leurs. De sorte qu'il y a à la fois l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité.
Effectivement, la manière dont parfois Épictète le présente, c'est pas sûr que ce soit comme ça que le système ait été construit, évidemment, mais la manière dont Épictète le présente parfois, c'est que le seul moyen de gagner à tous les coups, donc on se place dans une perspective pragmatique, le seul moyen de gagner à tous les coups, eh bien, comme dit Épictète, c'est de n'entrer que dans un jeu où tu es sûr de gagner. Hein, je le disais déjà tout à l'heure. Et donc, effectivement, de ce point de vue-là, le pragmatisme débouche sur une espèce de rigorisme, hein, qui nous conduit à tenir ferme sur des principes qui paraissent un peu idéaux, excessifs.
On va revenir avec vous, Thomas Benatouille, sur la question du jeu. Avant cela, encore un épisode, enfin, encore un moment sur cette jambe brisée. Épictète lui dit ceci à son maître. Donc, cher homme, qu'est-ce que tu me racontes ? Moi, ma jambe, tu l'enchaîneras, mais ma faculté de choisir, Zeus lui-même, ne peut pas la vaincre. Donc, il y a, paradoxalement, hein, là encore, malgré cette incorporation, cette façon qu'il a de vivre pleinement ce qui lui arrive, ce paradoxe qui veut qu'il s'éloigne de la douleur en la vivant tout entier, en la comprenant, il y a en même temps, comme toujours chez les stoïciens, la volonté de faire valoir une liberté qui transcende une faculté de choisir, un libre arbitre, paradoxalement, qui transcende tout ce qui arrive à son corps.
Oui, et même dans cette formule qui a fait couler beaucoup d'encre, vous remarquerez que Épictète ne dit pas seulement que rien dans le monde ne peut m'obliger à vouloir quelque chose que je ne veux pas ou m'obliger à penser que quelque chose que je juge faux est vrai ou que je juge vrai est faux. Il dit même que Zeus, hein, le dieu suprême, ne peut pas me forcer. Hein. Et on a parfois, certains interprètes se sont dit, mais là, on est déjà dans l'existentialisme. Hein. L'existence précède l'essence. La liberté humaine ne s'autodétermine dans une sorte d'absolu qui précède toute règle, tout monde constitué. Alors bon, là, c'est une interprétation sans doute excessive parce que Épictète pense que l'âme humaine est une partie de Dieu, hein, de Dieu qui se confond avec la nature, hein, qui est l'âme de la nature, qui règle l'ensemble de la nature et la structure selon un ordre rationnel. Et donc, quand Épictète dit « même Zeus ne peut pas me contraindre », ça ne veut pas dire que l'homme se place au-dessus, hein, de Zeus et qu'il a une espèce de liberté qu'il ferait échapper au déterminisme.
Mais que l'homme serait une partie de l'entendement infini de Zeus, comme dirait l'autre.
Hein. Voilà, comme dirait l'autre, exactement.
Absolument. On va parler de l'autre. Hein. L'autre, c'est Spinoza. On va parler du rapport entre les stoïciens et Spinoza avec Pierre-François Moreau dans cette semaine sur le stoïcisme. Kant lui-même dit « la nature peut m'écraser, elle ne peut pas me forcer à mentir », reprenant là encore peut-être une intuition stoïcienne. Juste un point encore, je voudrais avoir votre sentiment sur l'extrait qu'on va entendre maintenant, qui est extrait de Casino Royale, l'avant-dernier James Bond. Pour mémoire, James Bond se retrouve nu sur une chaise percée et son ennemi, le chiffre, type qu'on appelle le chiffre, après avoir dit « mais pourquoi faire des choses compliquées pour torturer un homme alors que les choses les plus simples sont les meilleures ?» eh bien se propose, armé d'une corde à nœud, de lui pulvériser littéralement les testicules, ce qui a pour effet de faire beaucoup rire sa victime. Écoutez James Bond dans le rôle d'Épictète.
Entre nous, je n'ai jamais compris tous ces supplices élaborés. Il n'est rien de plus aisé que de faire souffrir un homme jusqu'au point de non-retour. Et bien sûr, à la douleur subite s'ajoute le fait que l'on sait que si on ne se soumet pas assez vite, on ne sera peut-être même plus identifiable en tant qu'homme. Une seule question demeure. Vous soumettrez-vous à temps? Je veux l'argent. Mademoiselle Lint va me donner le numéro de compte si ce n'est déjà fait. Par conséquent, je n'attends de vous que le mot de passe. Le mot de passe, je vous prie.
Ça me gratte un peu. En dessous. Vous voulez bien ?
Sur la droite ! Sur la droite ! Sur la droite ! Vous êtes un vrai comique, monsieur Bond. Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Maintenant, le monde entier saura que c'est en me grattant les couilles que vous êtes mort. Je vous demande pardon. Je suis mort. Je suis mort. Oui, vous aurez beau vous acharner, je ne vous révélerai jamais le mot de passe. Vos clients vous traqueront et ils vous découperont en petits morceaux pendant que vous agoniserez. Parce que si vous me tuez, vous ne pourrez pas vous cacher.
Voilà, du stoïcisme appliqué à la vie pratique, hein. C'est très utile en l'occurrence, hein. James Bond s'en sort grâce à ça. Thomas Benatouille, qu'est-ce que ça vous inspire, ça ?
Écoutez, il y a une grosse différence entre Épictète et Marc Aurèle, c'est que Marc Aurèle n'a pas le droit de tuer. Il ne peut pas...
Marc Aurèle, vous voulez dire...
Pardon, Épictète.
Épictète n'a pas
le droit de tuer, à ma connaissance.
Ah oui, c'est ça, voilà.
Et donc, il peut se venger de ce qui lui arrive et il peut prédire que ses propres services traqueront le méchant jusqu'au bout de la terre. Ce n'est pas le cas d'Épictète. En revanche, quand James Bond dit à celui qui le torture qu'il finira par succomber à ses propres alliés, là, on reconnaît cette idée qu'on trouve déjà chez Platon et qu'on trouve aussi chez les stoïciens, à savoir que la concorde n'existe que dans la vertu et que donc ceux qui ont des fins illégitimes, qui cherchent à s'allier au service du vice, au service de leur propre passion, en fait, finissent très vite par se retourner les uns contre les autres. Et là, on pourrait interpréter ça comme cette espèce de connaissance des consécutions naturelles qui fait qu'on prévoit ce qui va arriver et qu'on peut, dès le début, savoir qu'une action n'atteindra pas ses conséquences et donc ne pas s'y engager. La dernière chose amusante, c'est que, par rapport à James Bond, il y a des textes très intéressants d'Épictète dans lesquels il dit que le philosophe, en particulier le philosophe cynique, est, alors le terme, ce n'est pas l'espion, mais c'est l'avant-garde de l'humanité, c'est-à-dire ce soldat qui court devant l'armée pour voir ce qui se passe devant l'armée et pour lui annoncer ce qui va arriver. Et cette idée d'Épictète très importante du philosophe comme une sorte d'espion de Dieu, une sorte d'avant-garde, c'est l'idée que le philosophe montre aux autres hommes comment ils pourraient vivre s'il pratiquait la philosophie.
C'est intéressant parce qu'il y a une certaine conception de l'héroïsme derrière ce qui relève pourtant d'une discipline de l'assentiment, de la connaissance des causes et du refus d'agir sur ce qui nous échappe.
Oui,
il faut beaucoup d'héroïsme en somme pour limiter le monde ou pour limiter mon activité à ce sur quoi j'ai une prise.
Oui, oui, on sait que Héraclès, Ulysse sont des grands héros stoïciens, mais évidemment ce sont un Héraclès et un Ulysse réinterprétés par le stoïcisme et dont les aventures et les entreprises prennent un sens différent de celui qu'ils avaient dans les mythes traditionnels.
Un peu plus vers la fin. Quand je monte sur scène, comme on prend le dernier train. Même les soirs de drame, il faut trouver la flamme qu'il faut pour toucher les femmes qui me tendent les mains, qui me crient qu'elles m'aiment. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis fatigué. C'est pour ça qu'aujourd'hui je voudrais crier. Je ne suis pas un héros, mais faut pas me coller à la peau. Je ne suis pas un héros, faut pas croire ce que disent les journaux. Je ne suis pas un héros, un héros.
Thomas Benatouille, il est l'invité des Nouveaux Chemins de la Connaissance pour parler d'Épictète et de Marc Aurèle. C'est une semaine sur le stoïcisme, vous l'aurez compris. Donc, dans les Nouveaux Chemins, nous sommes jeudi, c'est le quatrième temps de ce parcours des stoïciens. Et en votre compagnie, nous revisitons, Thomas Benatouille, le manuel d'Épictète. Paragraphe 17, ou chapitre 17, je ne sais pas comment il faut l'appeler. Il dit ceci: souviens-toi que tu joues dans une pièce qu'a choisi le metteur en scène. Courte s'il l'a voulu courte, longue s'il l'a voulu longue. S'il te fait jouer le rôle d'un mendiant, joue-le de ton mieux. Et fais de même que tu joues un boiteux, un homme d'État ou un simple particulier. Le choix du rôle est l'affaire d'un autre. Que signifie chez les stoïciens cette métaphore filée du monde comme une pièce de théâtre? Le monde comme pièce de théâtre, ça n'est pas une invention de Shakespeare, c'est d'abord une invention des stoïciens, et puis de Plotin d'ailleurs. Pourquoi faut-il difficile. De quoi peut-on déduire finalement l'interprétation du monde comme une scène de théâtre ?
Alors la première chose importante, effectivement, c'est l'idée qu'on nous assigne des rôles. Donc dans notre vie, il y a un certain nombre de choses qui sont des matières, comme dit souvent Épictète, que nous ne choisissons pas. Un peu comme quand un acteur se voit assigner un rôle, il ne décide pas de ce qu'il dit, c'est l'auteur de la pièce qui décide de ce qu'il dit. Hein. Toutes les conditions de ce qu'il va faire lui sont prescrites de l'extérieur. Pareil pour nous, et on retrouve ce que vous disiez au début, l'un est né esclave, l'autre est né empereur, l'autre est né commerçant, tout cela, nous ne le choisissons pas. Et quelle est notre tâche à nous, alors ? Eh bien, notre tâche, c'est de jouer au mieux le rôle qu'on nous a assigné.
Mais comment est-ce qu'ils peuvent faire valoir dans ces conditions la transcendance du libre arbitre ? On l'a vu tout à l'heure, l'idée que la nature peut m'écraser, elle ne pourra pas me contraindre à mentir ou à penser autre chose que ce que je pense, l'idée qu'en somme il y a une transcendance de la volonté. Si mon rôle c'est d'accomplir finalement ce qui a été écrit pour moi, où est le libre arbitre, où est la liberté là-dedans ?
Alors je reprends le terme que je donnais tout à l'heure, ce sont les matières qui me sont données. Et comme dit Épictète, les matières sont indifférentes, mais l'usage qu'on en fait n'est pas indifférent. Donc, justement, la métaphore théâtrale, qui est très importante dans tout le stoïcisme dès ses débuts et qui se transforme pour exprimer différentes idées, différentes conceptions de la morale, la métaphore théâtrale permet de distinguer justement entre les matières et l'usage. Hein. Il faut penser à ce moment-là la morale comme une sorte de style. Qu'est-ce qui distingue un acteur d'un autre ? Qu'est-ce qui distingue un bon d'un mauvais acteur ? D'une certaine manière, hein, ils ont le même costume, ils ont le même décor autour d'eux, ils disent les mêmes mots. Et qu'est-ce qui change ? C'est la manière dont ils le disent, le style qu'ils arrivent à donner au texte. Et même, hein, c'est ça qui est intéressant avec la métaphore théâtrale, c'est la manière dont ils arrivent à rendre les intentions de l'auteur, dont ils arrivent à nous faire percevoir hein, ce qu'il y a dans le texte. Et donc, c'est ça, finalement, le sage. Hein, c'est celui qui interprète correctement le rôle que lui a assigné Dieu et qui, par cette interprétation réussie, finalement, collabore activement avec le grand metteur en scène, le metteur en scène divin, et collabore activement à la pièce de théâtre du monde.
Mais se pose alors un problème qu'on retrouve au XVIIe siècle avec les grandes théodicées, notamment celle de Leibniz, et finalement l'idée que quelle liberté reste-t-il à l'homme si Dieu a voulu le meilleur des mondes possible. Il y a chez les stoïciens hein, l'idée d'une providence bienveillante qui ordonne le tout et en vertu de laquelle il s'agit de se comporter justement pour être vertueux. Si on s'inscrit dans cette démarche qui est propice à la sagesse, à la sérénité, à l'ataraxie, à une certaine forme d'acceptation peut-être. Comment peut-on à la fois faire valoir cette position et en même temps prétendre qu'il y a, par exemple, dans le cas du suicide, qui est vanté par les stoïciens comme une reprise en main de la liberté, faire valoir en même temps l'idée que nous avons un libre arbitre. Ça reste quand même contradictoire, non, Thomas Benatouille ?
Les stoïciens ne prétendent pas que nous avons un libre arbitre, justement. Hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. La conception stoïcienne de la liberté n'est pas libre arbitre, c'est-à-dire...
On parle d'une faculté de choisir quand même. Hein.
Oui, on parle mais c'est pas l'idée, la liberté ne réside pas dans le libre choix. C'est-à-dire cette idée, dans deux situations absolument équivalentes, on aurait le pouvoir de faire des actions opposées. Hein, c'est finalement ça, le libre arbitre, n'est jamais présenté par les stoïciens comme le propre de l'homme. Hein, parce que, de toute façon, pour les stoïciens, dès Chrysippe, y a cette idée que, comme chez Aristote d'ailleurs, on est déterminé par notre histoire, on est déterminé par notre caractère. Et donc, si on a fait une série d'actes qui ont développé en nous certaines dispositions, après, il leur paraît normal qu'on soit déterminé à agir d'une certaine manière. On n'est pas déterminé à agir de l'extérieur. Rien d'extérieur ne nous détermine à agir, même hein, quand je vous torture, je ne peux pas vous forcer à faire quelque chose. En revanche, on est déterminé par nos propres dispositions. Et si on a laissé libre cours à des actions qui ont forgé en nous des dispositions qui ont fini par nous rendre mauvais, ben voilà, les choses sont ainsi.
Les choses sont ainsi, mais alors est-ce que dans le stoïcisme, il y a toujours la possibilité de prendre l'existence à rebours finalement et de contrarier ces déterminations ? Est-ce que paradoxalement, la marge de liberté qui est laissée à l'homme malgré ses déterminations ou à l'intérieur de ses déterminations permet de penser à la fois une nécessité qui est à l'œuvre dans le monde et ma liberté comme une façon d'adhérer à cette nécessité et en même temps la possibilité pour moi, au terme d'une pratique, d'un exercice, d'une méditation, de revenir sur ce qui me détermine pour affirmer une liberté qui me détache de mes déterminations natives ?
Alors ça, c'est effectivement un grand problème dont on voit bien la formulation, par exemple, dans toute la question du rapport à autrui chez Épictète et Marc Aurèle. Hein. Marc Aurèle et Épictète soulignent évidemment que autrui est souvent un obstacle à mes propres actions et nous invitent justement, répète, que autrui ne dépend pas de moi, qu'il ne faut pas que je cherche à obtenir d'autrui ce que je veux, que je cherche, j'espère qu'autrui, par exemple, des proches que j'aime soient toujours près de moi, parce que ça, évidemment, je ne peux pas le maîtriser et j'en serais peiné le jour où ils ne seront plus là. Et par ailleurs, Marc Aurèle insiste sur le fait que les méchants commettent des actions mauvaises comme les figuiers produisent une substance laiteuse ou comme les bébés pleurent. Ce sont des phénomènes naturels. Il n'y a pas de raison de s'énerver contre
le fait... La
mauvaise
action est le fruit de l'arbre
exactement.
Méchant.
Exactement. Et Marc Aurèle répète sans cesse, il y a des hommes qui agissent mal. Imaginez l'empereur à la cour qui a avec des gens qui viennent sans cesse le solliciter pour des tas de choses et des gens qui veulent lui faire faire des mauvaises actions ou qui essayent de le tromper, etc. Marc Aurèle se dit sans cesse, ce sont des choses naturelles, ça ne sert à rien de s'énerver contre ceux qui agissent mal. Et en même temps, il y a une possibilité de changer les choses qui est d'instruire autrui. Et là, on retombe sur l'intellectualisme. La seule marge de manœuvre qu'on a, c'est d'instruire autrui. Vous avez un texte intéressant de Musonius Rufus, qui est un stoïcien un peu oublié, mais qui est le maître d'Épictète. C'était un chevalier romain qui a joué un rôle politique et qui a laissé certaines diatribes, sans doute là encore, prises en note par un de ses élèves. Et Musonius Rufus pose ce problème très intéressant qui est que dire à un jeune homme dont le père refuse qu'il fasse de la philosophie ? Alors là, c'est très intéressant ce problème parce que vous voyez, si le père refusait que le jeune homme devienne, je ne sais pas moi, comédien ou ce ne serait pas un problème parce que Musonius pourrait lui répondre immédiatement. Mais enfin, fais ce que le destin t'apporte. Si le destin a voulu que tu deviennes sénateur, tu deviendras sénateur. Si le destin a voulu que tu sois au contraire un commerçant, tu n'as pas à t'en plaindre. Mais là, le problème, évidemment, est plus sérieux parce que le jeune homme veut faire de la philosophie et la philosophie nous mène au bonheur, etc. Donc là, comment faire ? On ne peut pas simplement répondre au jeune homme.
C'est ton destin.
Obéis à ton père et tu passeras à côté de la philosophie.
Sois philosophe et accepte de ne pas en faire.
Voilà, on ne peut pas lui répondre ça. Et donc, effectivement, Marc Aurèle, c'est très intéressant, développe toute une... j'ai encore confondu, je parle bien de Musonius c'est pas
Rufus,
de Marc Aurèle. Musonius développe toute une casuistique où il explique qu'il va falloir d'abord essayer de convaincre le père en lui expliquant que faire de la philosophie n'est pas quelque chose de mauvais, ce n'est pas quelque chose qui va éloigner son fils de la carrière qu'il prétend atteindre, puisque là, on a une conception de la philosophie chez les stoïciens qui n'est pas une... La philosophie n'est pas une carrière en soi. Devenir philosophe, c'est pas devenir professeur. Pas nécessairement, ça peut aboutir à cela. Mais devenir philosophe, c'est quelque chose qui est compatible avec toutes les activités professionnelles. Et donc, c'est ça qu'on va expliquer au père. Et puis, si au bout du compte, il n'est pas convaincu, Musonius Rufus laisse ouverte la possibilité qu'on désobéisse parce qu'on obéit à la raison chez son père. Et même s'il y a un impératif, un devoir, comme disent les stoïciens, d'obéir à ses parents, on ne doit pas leur obéir quand ils vous donnent des ordres qui sont contraires à la raison. Et donc, on peut éventuellement désobéir à son père si on veut faire de la philosophie et qu'il essaye de vous en empêcher.
C'est fou le nombre de paradoxes quand même, parce qu'ici, on a l'obéissance finalement contre l'arbitraire. On a également, constamment chez les stoïciens, le sentiment qui revient que on n'y peut rien. On n'y peut rien, comme si... Et en même temps, cette phrase, ce constat, on n'y peut rien est comme la condition de possibilité de changer quoi que ce soit à quelque chose. En somme, il faut commencer par se dire qu'on n'y peut rien pour éventuellement parvenir à changer quelque chose. Ça ressemble un peu à la position camusienne de l'homme révolté qui dit oui pour dire non. Qu'en pensez-vous ?
Oui, c'est vrai qu'on peut penser à une... rapprocher Camus...
Ce que Marc Aurèle appelle l'assentiment, justement.
Oui. Alors bon, l'assentiment, c'est quelque chose de plus technique, sans doute, qui concerne la manière dont on se rapporte à ses propres représentations. Mais c'est vrai que si on prend plus généralement l'idée d'une sorte d'assentiment donné au monde, de manière de suivre ce qui arrive, dont on a déjà parlé, il y a sans doute quelque chose qui ressemble à ce qu'on trouve chez Camus. Alors évidemment, la grosse différence, c'est que chez Camus, c'est sur le fond d'un monde absurde, alors que chez les stoïciens, vous avez parlé tout à l'heure de Providence, au contraire, tout cela est soutenu hein, par une cosmologie de la providence très forte qui reprend toutes mes actions dans un schéma global cosmique qui veut que le monde est ordonné rationnellement. Et quand je participe à l'ordre du monde, quand je le suis, quand je l'accomplis, quand je seconde Dieu dans le déroulement du monde, je participe à une œuvre rationnelle. Évidemment, là, on est très loin d'une philosophie de l'absurde.
En même temps, chez Camus, dans Les Noces, il y a un moment où il dit, sortant de l'eau, j'avais bien joué mon rôle, qui est en fait son métier d'homme. On en revient à Marc Aurèle, donc, que vous voulez citer absolument, Thomas Benatwyl. Il dit ceci, ne perds pas la partie de vie qui te reste à vivre en des représentations qui concernent les autres hommes, à moins que tu ne mettes cela en rapport avec quelque chose qui serve au bien commun. Car tu te prives d'accomplir une autre tâche si tu te représentes ce qu'un tel ou un tel fait, pourquoi il le fait, ce qu'il dit, ce qu'il pense, ce qu'il manigance, et toutes ces autres questions qui te font tourbillonner intérieurement en te détournant de l'attention que tu dois porter à ton propre principe directeur. Comment, et en particulier chez un homme politique, comme c'était le cas évidemment avec Marc Aurèle qui était empereur, comment concilier, là encore, l'attention exclusive à son propre principe directeur et ce souci très présent chez les stoïciens de former des hommes publics?
Alors, effectivement, c'est un point important. Il y a cette thèse très paradoxale pour nous chez les stoïciens que c'est le souci de soi qui est la condition absolue et d'ailleurs le seul moyen du souci des autres. Et donc, cette thèse est très paradoxale parce que... sans doute du fait du christianisme repris dans une certaine mesure par Kant, on a souvent l'idée que le fait de s'intéresser à soi-même est le premier pas hors de la morale. Hein. Le fait de s'intéresser à soi-même, c'est justement l'égoïsme hein, et c'est ce qui nous empêche d'être moral. Chez les stoïciens, vous avez la thèse rigoureusement inverse.
En somme, l'amour de soi est condition du bien public.
Exactement. Hein. L'amour de soi est condition de la bonne manière de traiter les autres. Hein. Et Épictète dit même dans certains passages, si tu veux entrer correctement en rapport avec ton frère, ton père, etc., si tu veux les traiter correctement, non seulement tu dois considérer que ne sont ni des biens ni des maux les terres, l'argent, etc. Parce qu'évidemment, si tu désires de l'argent et que ton frère ne veut pas te céder sa part d'héritage, tu te fâcheras avec ton frère. Donc là, ça paraît évident. Mais Épictète dit, il ne faut pas considérer ton frère comme un bien. Parce que si tu considères ton frère comme un bien, là encore, tu n'entreras pas dans le bon rapport avec lui. Le bon rapport avec lui, tu l'auras si tu pars de toi-même et que tu vois ce qui... du fait de ta position, t'es prescrit. Et donc là, c'est ce qu'on a dans le passage que vous avez lu. Marc Aurèle considère que s'il se retourne vers lui-même, s'il considère le principe directeur de son âme, comme il dit, Épictète appelle cela la proairesis, la résolution, le choix moral, la personne morale. Tout le monde s'interroge sur la manière de traduire cette notion très importante chez Épictète, la proairesis. Si l'on se soucie avant tout de cela, eh bien, on entrera dans le juste rapport avec tout le reste.
En somme, les choses proairétiques, hein, comme on le dit, hein, c'est, on pourrait dire... mouvement, désir, inclinaison,
c'est tout ce qui dépend
aversion,
de nous.
C'est finalement tout ce qui dépend de nous, contrairement à ce qui est apro-aérétique et qui ne dépend pas de nous et à quoi il serait fou de suspendre notre bonheur.
Exactement, on revient à ce qu'on a dit au début avec cette idée importante en plus qu'on avait dans le texte de Marc Aurèle, que notre position du souci de notre pro-aérésis peuvent se déduire un certain nombre de devoirs qui sont liés à ce qu'est la nature humaine. Et par exemple, la nature humaine, fondamentalement pour les stoïciens, est sociable ou sociale. Hein. Et donc, si on comprend ce que nous sommes en tant qu'hommes, on doit travailler quotidiennement en permanence à la concorde entre les hommes. Hein. Et c'est pour ça, par exemple, que dans le passage que vous avez lu, Marc Aurèle, et ça c'est très proche à son stoïcisme, dit « ne te préoccupe pas de ce que les gens pensent hein. ». S'interroger sur les intentions d'autrui, qu'est-ce que c'est? C'est un moyen de s'énerver, hein, parce que quand les gens ne font pas ce que vous voulez, vous dites « mais comment est-ce qu'il peut? Pourquoi il ne comprend pas qu'il doit faire autrement, etc. ?» Et donc vous traitez autrui comme quelqu'un qui vous veut du mal, alors qu'en fait, ce n'est qu'un ignorant. Hein. On rappelle ce qu'on a dit tout à l'heure, la mauvaise action est le fruit, simplement, comme la figue qui tombe du figuier. Donc, on ne s'interroge pas sur les intentions des gens, on ne s'interroge pas sur ce qu'ils ont derrière la tête, mais hein, on essaye de les faire concourir au bien commun. Hein. Épictète le dit, et Marc Aurèle aussi dit quelque chose comme ça, on ne peut pas transformer les hommes, mais on essaye d'en faire usage dans le sens de la concorde entre tous les hommes.
time takes a cigarette, puts it in your mouth.
On a très peu parlé du suicide aujourd'hui, Thomas Benatouille, et c'est bien dommage. Savoir ce qu'il en est effectivement du rapport entre la liberté et le suicide, dans quelle mesure le suicide est un acte de liberté ou au contraire une façon de se soumettre, pro-hérétique, apro-hérétique, on en parlera certainement, ou on en aura parlé certainement cette semaine, puisque nous sommes aujourd'hui jeudi, heure de diffusion, mais cette émission a été enregistrée le mardi d'avant. Un grand merci Thomas Benatouille, c'était passionnant de vous entendre. Je rappelle que vous êtes maître de conférence en philosophie à Nancy. Et par ailleurs, vous êtes l'auteur de « Faire usage, la pratique du stoïcisme » paru chez Vrin. Et en septembre 2009, apparaître donc un essai sur Musonius, Épictète et Marc Aurèle. Aux belles lettres, je signale aussi d'ailleurs pour le seul plaisir les livres suivants. « La citadelle intérieure » de Pierre Hadot, « Les pensées » de Marc Aurèle, qu'on peut retrouver d'ailleurs chez Frémaux, lu par Denis Podalydès. Et le manuel d'Épictète que vous trouvez dans toutes les éditions du Monde. Tiens, puis ça n'a rien à voir, mais je vous signale également dans un tout autre domaine le petit livre excellent de Juliette Serre, Cinéma et philosophie, au cahier du cinéma, dans la collection Les Petits Cahiers. Demain vendredi s'achève cette semaine sur le stoïcisme en compagnie de Pierre-François Moreau qui viendra nous parler des stoïciens et de l'autre. L'autre, c'est Spinoza. C'est avec lui donc que se terminera cette semaine consacrée aux stoïciens sous la musique de David Bowie et du Rock'n'Roll Suicide. À la technique aujourd'hui, Fabien Eliès. À la réalisation, Daniel Finot. Assistant et collaboration, Geneviève Méric, Adèle Vanrette, Jennifer Murzo. Un grand au revoir à Igor Kortolitsa qui va bien nous manquer. Et un grand bonjour à Florence Malfatto qui vient de rejoindre la petite équipe des Nouveaux Chemins. France Culture, il est 17h50. Tout de suite, on retrouve Albert Jacquard.